Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne reviendrai pas sur un certain nombre de choses que notre ami Gérard a écrites sur les procédures telles qu'elles sont prévues par le droit et en particulier le droit interne. J'essaierai d'être un peu complémentaire et d'apporter au fond la contribution d'autres sciences sociales que ce que j'appellerais être une science sociale normative qui est le droit, parce qu'au fond, il y a quand même une chose qu'on oublie souvent, c'est que le droit et les sciences sociales ont le même enjeu. On n'a pas les mêmes perspectives d'approche, on n'a pas les mêmes raisonnements, mais on a le même enjeu. On travaille tous sur la question de la coordination de l'action. Et un des enjeux forts du droit, c'est justement de permettre la coordination. Alors, la question du droit est toujours compliquée parce que le droit est une forme, je l'ai rappelé la dernière fois lors des premières doctorales, après l'intervention de, justement du jeune dont tu parlais, le droit est une sorte d'épiderme qui recouvre tous les gestes de la vie sociale, ce qui fait qu'on finit toujours par l'oublier ou par faire comme s'il n'existait pas. Et pourtant, le droit est toujours un élément structurant de notre propre réalité, de nos actions, de nos activités. Et à ce titre-là, il faut bien évidemment pas l'oublier. Le deuxième point qui est toujours délicat avec le maniement du droit, tu citais, et ça m'a fait plaisir dans ton texte, un très joli livre d'un Allemand, Rudolf von Jering, qui écrivait un livre qui s'appelle Der Kampf ums Recht, la lutte pour le droit. C'est-à-dire qu'effectivement, le droit a toujours ceci de particulier, c'est qu'il est toujours lié au fond à une lutte, et en même temps, c'est un élément de contrôle. Donc il y a toujours une forme de réception du droit qui n'est jamais évidente par les sciences sociales. Alors, du coup, je vous le cite tel quel. La traduction est approximative, et une très belle phrase de von Jering: un droit acquis sans peine ne vaut ni plus ni moins que l'enfant trouvé dans les choux, dans le conte qu'on raconte aux bambins. C'est-à-dire qu'effectivement, l'histoire du droit est faite effectivement de lutte, elle est faite de combat, au point qu'il avait même une très jolie phrase, j'en parlais avec Gérard, là aussi je traduis, justement parce qu'on plaint toujours à la dimension formelle du droit, il disait la forme et l'ennemi de l'arbitraire, la sœur jumelle de la liberté, dit Zwillingsschwester der Freiheit. Die Zwillingsschwester der Freiheit, c'est la sœur jumelle de la liberté. Donc, c'est, effectivement, et du coup, ça renvoie à un certain nombre de discussions. Vous savez, c'est un petit peu comme quand j'étais nettement plus jeune, les théories du néocorporatisme. Alors, j'ai toujours que les théories. Au fond, on pourrait reprendre la question de la participation, parce qu'il était aussi question de ça dans les théories du néocorporatisme. On dit le néocorporatisme, c'est la domination de l'État, etc. Et puis, il y en a d'autres qui ont essayé de montrer, justement, ça renvoie à ce que tu disais à propos du Conseil municipal, Francis, que, effectivement, c'était le cas de Pizzorno en Italie, que les échanges sociaux, on ne pouvait quand même pas les maîtriser de cette manière. Et vous aviez un auteur suédois, Walter Korpi, qui avait écrit un beau livre qui s'appelait « Democratic Class Struggle », qui montrait qu'effectivement, c'était là aussi beaucoup plus complexe que ça. Ce qui fait qu'il est toujours important d'avoir une vision du droit qui est quand même très prudente de ce point de vue-là. Alors, comme je dis, ce que je voudrais faire, c'est replacer effectivement cette question du droit dans l'évolution du pouvoir politique aujourd'hui, parce que cette question justement de la participation nous renvoie à une question très directe qui est effectivement le pilotage des sociétés qui sont les nôtres. Parce que derrière ça, il est question d'action publique. Et aujourd'hui, dans cette post-strong state era, comme on l'a appelé, cette configuration post-nationale, pour utiliser le terme d'un auteur qui fut souvent cité ici, à savoir Habermas, je veux dire, on est quand même dans une réflexion sur le droit très particulière. Et cette réflexion sur le droit est liée, et cette place du droit aujourd'hui, elle est liée effectivement à une action publique qui se situe dans le cadre d'un pouvoir public qui a changé dans sa nature, son cadre et sa portée. Donc, je veux dire, il faut recadrer, je crois, pour comprendre la question du droit aujourd'hui, il faut le recadrer, le mettre en perspective, effectivement, avec les transformations même du pouvoir politique et les mutations de l'action publique. La situation du droit est très liée, justement, à cette question. Et en particulier, à une question très claire dans notre pays, qui est l'affaiblissement d'une théorie qui a été la théorie majeure qui a structuré notre État et notre droit, qui est la théorie de la puissance publique, qui était aussi une théorie de la souveraineté, puissance publique et souveraineté étant, au fond, historiquement deux synonymes. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une forme d'épuisement, d'une certaine manière, de cette théorie de la puissance publique, qui nous permet aussi, du même coup, de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le droit. Le droit est probablement moins porté aujourd'hui par de véritables théories de l'État, ce qui était la théorie de la puissance publique, qui était à la fois une théorie de l'État et une doctrine d'action, il ne faut pas l'oublier. Or, aujourd'hui, on a perdu d'une certaine manière, et ce qui fait souvent pleurer beaucoup les gens du Conseil d'État, cette dimension, parce qu'on est dans une forme d'orphelin, on est dans une situation d'orphelin par rapport, justement, il n'y a plus de grande doctrine, je crois, de l'action publique, que ce soit la théorie du service public ou la théorie de la puissance publique. Donc, ce côté-là, il y a une forme d'épuisement qui fait que le droit est de plus en plus policy-oriented, comme on le dit aux États-Unis, comme le dit en particulier un excellent auteur qu'il faut fréquenter, qui s'appelle Duncan Kennedy. Donc, certes, aujourd'hui, on est dans une situation où les paradigmes gestionnaires deviennent de plus en plus concurrents aux paradigmes juridiques, mais ce n'est pas non plus totalement la fin du droit. Tout simplement parce qu'il y a un vrai besoin de droit. Il y a un vrai besoin de droit pour des raisons qui sont liées aux transformations même du pouvoir politique et à des questions que tu évoquais. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, pour reprendre la formule de Mireille Delmas-Marty, qui parlait de la grande complexité juridique du monde, on est effectivement devant une constellation de centres de pouvoir. On est de plus en plus confronté à des acteurs qui ont conquis leur autonomie, soit à travers des mouvements sociaux, des formes d'institutionnalisation, etc. Comment vous gérez les échanges entre des acteurs de cette nature? Vous savez tous, le problème de l'action sociale, c'est l'incertitude d'autrui. Comment on gère ça? Donc, ce qui explique pourquoi la régulation contractuelle est devenue une régulation qui a tendu à s'imposer, parce que effectivement, c'est une manière de gérer l'incertitude du comportement des autres. Donc, ce qui explique pourquoi on a aujourd'hui fortement besoin de droit. Mais je voudrais en revenir très très vite à la question de la participation, de la délibération, etc., etc., pour dire que si aujourd'hui elle s'impose, c'est à la fois parce qu'effectivement il y a des revendications de droits, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements sociaux tels qu'on a pu les évoquer qui sont porteurs de revendications et de demandes de droits, mais aussi parce qu'on ne pense plus l'action publique dans les mêmes termes. Premier point, je dirais, c'est quand je dis l'action publique a changé dans sa nature. Tout simplement, et ce n'est pas un hasard si notre ami évoque le droit, la question de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Ce qu'il y a de nouveau dans l'aménagement du territoire et l'environnement, c'est que c'est pas tellement la thématique même, c'est le mode de raisonnement qui est à l'œuvre derrière ces politiques publiques. Ce sont les premières politiques qui sont assises sur des raisonnements de type conséquentialiste. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des logiques de production, on est dans des réflexions sur des conséquences. Et donc, du même coup, des conséquences affectent des territoires, affectent des acteurs, d'où ce qui t'explique très bien dans ton papier, c'est dommage que tu ne l'aies pas repris, c'est l'importance du droit à l'information qui est présent dans tous ces éléments qui visent justement à stabiliser et à développer la question de la participation. C'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'une action a des conséquences sur un territoire donné, sur un espace donné, il est normal qu'il puisse y avoir des informations là-dessus. Alors ici, on a cité beaucoup d'ouïes, c'est effectivement la notion des publics concernés qui est posée. Moi, on pourrait en citer d'autres. Moi, j'aime bien citer le père Weber, parce que les conséquences de l'action sont les vraies performances de l'action publique. Ce sont les vraies performances de l'action publique. D'où la réflexion sur les conséquences, elle induit aussi d'autres formes de pratiques et qui rendent nécessaires, justement, des formes de participation. C'est pour ça que l'État, ou les autorités publiques, tentent aussi à développer des formes de participation parce qu'il y a besoin, effectivement, d'avoir en retour les réactions des acteurs qui sont concernés par les effets d'une politique. Donc ça, c'est un... bien évidemment, cette question pose la question du deuxième point, qui est ce que j'ai appelé le cadre de l'action publique. C'est que vous voyez très bien que les conséquences, le problème des conséquences, et qu'on le sait très bien aujourd'hui à travers l'analyse de politique publique, etc., c'est que les territoires sont extrêmement variables. Je veux dire, Luigi Bobbio n'est pas là. Son père, Norberto Bobbio, ce grand juriste, parlait justement des droits de troisième génération, c'est-à-dire les droits à vivre dans un environnement non pollué. Mais quel est le territoire justement de ces droits, c'est la planète. Donc on voit très bien qu'on est aujourd'hui confronté, de par l'action publique, à une pluralité des territoires, à une pluralité des espaces, des conséquences, ce qui pose naturellement un problème qui est celui de l'extension énorme du système politique. Or, l'affaiblissement de la théorie de la puissance publique, là, elle est très nette. C'est que la théorie de la puissance publique, elle partait du principe, justement, c'est en ce sens que c'était une théorie de la souveraineté, une théorie de la souveraineté, c'est que la puissance publique, elle est unitaire, elle est unique, elle est indivisible et elle est suprême. Il y a une suprématie, une unité, une indivisibilité. Donc vous voyez en quoi la réflexion sur les politiques d'environnement ou les politiques d'aménagement du territoire mettent en question la théorie même de la puissance publique et aboutissent d'une certaine manière à un retour de la guerre des dieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où ce que nous dit le droit, c'est ni plus ni moins que la fin de l'intérêt général. Quid de l'intérêt général après la souveraineté, d'une certaine manière, pour reprendre un titre qui était celui d'une amie, Catherine Collot-Hélène, pour ne pas la nommer, qui parlait de quid des droits subjectifs après la souveraineté. Là, c'est un peu la même chose. Quid de l'intérêt général dès lors que, en fait, l'intérêt général était, dans le cas français, complètement identifié à la figure de l'État, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire la même chose, et que les intérêts généraux ne deviennent que des intérêts collectifs situés. Donc, du même coup, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a supériorité ou non ? Ce qui explique qu'on est dans une situation aujourd'hui de, comme le disent les collègues américains, coordination without hierarchy, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui, d'une certaine manière, nous brutalise et brutalise beaucoup les juristes, c'est que la dimension hiérarchique qui était présente dans la théorie de la puissance publique, elle s'est défaite. Elle s'est défaite, ne serait-ce que parce que, au plan interne, la décentralisation a créé un quasi-droit des collectivités territoriales qui a tendu à s'autonomiser considérablement. C'est-à-dire que, pour reprendre la formule même d'un juriste, et pas n'importe lequel, Léon Duguy, l'État n'a plus le monopole du bien public. C'est-à-dire que la situation actuelle entérine le fait que l'État n'a plus le monopole du bien public. Et du même coup, vous comprenez qu'on est dans un espace totalement nouveau qui est justement l'épuisement qui aboutit justement à cette forme d'épuisement de la hiérarchie. Donc, ce qui explique ce qu'il y a derrière justement toutes ces réflexions sur l'environnement, sur à la fois l'environnement, effectivement, l'aménagement du territoire, mais derrière cette réflexion sur la participation, sur ces formes de justice, etc. Et le troisième point, très rapidement, c'est que du coup, la portée de tout ça, c'est qu'effectivement, ça aboutit à identifier plus clairement une conception élargie de la démocratie, qui était présente, par exemple, en Allemagne, chez un auteur comme Fritz Scharf, mais qui est très présente en particulier, telle défendue par Pierre Rosanvallon. Pierre le montre très bien à travers son triptyque, si vous voulez, impartialité, réflexivité, proximité, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit très bien qu'aujourd'hui, on ne peut penser la démocratie qu'à travers ces trois moments, l'élection, bien évidemment. Mais là, ça pose la question qu'on évoquait ce matin, qui est la place du référendum, effectivement, comme forme de participation. Mais ce n'est pas n'importe laquelle, parce que là, c'est la forme de participation des citoyens. C'est-à-dire, pour reprendre la belle formule d'Anna Arendt, ce qu'on peut appeler des égaux différents. Alors que les formes de participation, telles qu'elles sont développées d'ailleurs par le droit administratif, ce qui est tout à fait symptomatique et caractérise bien la signification même de ces processus et de ces procédures, c'est-à-dire que là, ceux qui sont convoqués, ce ne sont pas les assujettis. Cette démocratie de proximité, elle convoque, c'est pas les citoyens, elle convoque des assujettis, c'est-à-dire des acteurs qui sont socialement situés. Et c'est parce qu'ils sont socialement situés, ce qui ferait plaisir à Dewey de dire ça, c'est qu'ils ont effectivement quelque chose à dire en tant qu'acteurs concrets. Et ce ne sont plus des égaux différents. Donc c'est pour ça que du coup, on voit bien que la démocratie, c'est aujourd'hui cette espèce de rencontre justement entre des procédures qui convoquent les citoyens et d'un autre côté, du fait que l'État se caractérise par des interventions que sont des politiques publiques, ça aboutit bien évidemment à identifier des cibles particulières, des publics spécifiques, lesquels, dès lors qu'ils sont concernés par les effets mêmes d'une politique, ont bien évidemment un droit à la parole. Donc voilà ce que je voulais dire très très rapidement. J'aurais pu dire beaucoup de choses, mais vous avez vu que l'eurodateur à côté de moi m'a sanctionné durablement. Ce qui veut dire que on est dans une situation aujourd'hui extrêmement compliquée, parce que j'ai cité Delmas Marty, c'est que on est aujourd'hui dans une situation où il nous reste à inventer, si vous voulez, les modalités adéquates à une coordination légitime et efficace dans un contexte d'épuisement de la solution hiérarchique et de relativisation de la hiérarchie, de la souveraineté. Voilà. Merci.